Solo esta vez.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci. Les colons français, venus au début du XXe siècle en Côte d'Ivoire, ont laissé derrière eux des orphelins métis, arrachés à leur mère, séparés du reste de la société. En quête de leurs origines, ces descendants cherchent des réponses et une reconnaissance nationale.
Je me considère comme une victime de la colonisation.
Nous étions pupilles de l'État, donc comment pouvons-nous ne pas être français? C'est une aberration.
Découvrez dans Reporter cette semaine les histoires hors du commun de ces orphelins de la nation.
Reporter Le Doc, à voir sur France 24 et France24.com.
Du dimanche 19 juillet, tous confinés, tous solidaires. Bienvenue à Pour vous riche, une émission spéciale en mode virtuel animée par Eric Kader en partenariat avec RFI, RTL, TV5 Monde, France Inter et France 24. Un montage et mixage DJ Devera dans un studio de fortune. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Pour vous riche, une émission spéciale aujourd'hui. Beaucoup d'événements cette semaine, réouverture de certains commerces dans certaines régions de l'Ontario, mais pas à Toronto, donc prenez votre mal en patience. La fête du 14 juillet a eu très peu d'impact à Toronto, comparable à New York, à Washington et même à Québec, me dit-on. 14 juillet à Paris, défilé vide, annonce et affrontement, une fête nationale pas comme les autres. Le masque sera obligatoire dans les lieux publics à clos dès le mois d'août, selon Emmanuel Macron. D'ailleurs, le président Macron a été pris dans des échauffourées en plein Paris après la cérémonie de la place de la Concorde. Quelques Français et des officiels de la ville de Toronto étaient bien au rendez-vous le 14 juillet lors de la cérémonie de levée du drapeau français à la mairie de Toronto. Beaucoup, beaucoup de messages cette semaine de la part de nos éditeurs et d'ailleurs on vous remercie chaleureusement. Je rappelle que parmi les messages, il y a tout d'abord, des remerciements à des conseillers consulaires du consulat général de France, à Francine Watkins et Marc-Albert Cormier, toujours fidèles au rendez-vous. Je vous rappelle que Yann-Alexandre Girard de la région d'Ottawa et de Gatineau était aussi parmi nos invités la semaine dernière. Beaucoup, beaucoup de commentaires et de réactions lors de sa présence à l'émission. Et bien sûr, un grand merci à tous les artistes qui étaient au rendez-vous. En ces temps difficiles, je sais que c'est pas évident pour beaucoup de gens. Et bien, CUT 89,5 FM vous accompagne avec ses chroniqueurs, ses médias partenaires, et ce sera le cas tout au long de l'été. Je vous rappelle le menu du jour rapidement, plein feu sur le changement de cap au service de la police de la ville de Montréal. Pourquoi ce changement? Pourquoi la police de Montréal a osé embaucher un conseiller noir francophone en son sein? Qui est d'ailleurs ce conseiller au parcours atypique? On en parle avec le sociologue et notre ami chroniqueur Frédéric Boiron. Bonjour Frédéric. L'après-coronavirus, ça se passe mal dans certains pays. On fera un tour d'horizon tout au long de cet été. Première destination, aujourd'hui, l'île Maurice. Manifestation monstre contre les lois restrictives le 11 juillet dernier. On en parle avec Jason Morris. C'est un jeune journaliste d'un tout nouveau média à Port-Louis, à l'île Maurice, People's Press, donner la voix au peuple. Et bienvenue à notre émission et j'espère que vous serez parmi nos collaborateurs tout au long de l'année. Et enfin, avant la fin de l'émission, nous recevrons Amic Lefontaine, président de la Fondation Sylvanie Lindor, qui nous invite à une séance spéciale en hommage à Lincoln Alexander, ce premier lieutenant-gouverneur noir de l'Ontario. Bonjour Amic Lé. COVID-19, faut-il rendre le masque obligatoire? Voilà la grande question que nous pose un auditeur de la région de Toronto. Entre émotions et applaudissements, Jean-Jacques Bourdin, cet animateur vedette de plus de 19 ans à la matinale Bourdin Direct sur RMC en France, a fait ses adieux la semaine dernière. Rendez-vous dans les coulisses de cette émission et aussi les meilleurs clashs verbaux, un montage de nos DJ, y compris DJ Devera. Le confinement inspire ou fait déconner certains, ça va bien aller. C'est une nouvelle chanson de la grande dame de la chanson québécoise, Ginette Renaud, est de retour. La conférence de presse d'Emmanuel Macron, président français, laisse les communs des mortels assez perplexes. Certaines expressions sont presque impossibles à déchiffrer et il y a même des professeurs de la région de Toronto qui nous ont envoyé des messages cette semaine. On en parle si on a le temps. Parmi les manchettes de cette semaine, revirement de situation, l'administration Trump a annulé sa politique qui interdirait aux étudiants internationaux qui ne suivent que des cours en ligne de séjourner aux États-Unis. Voilà une grande victoire pour les avocats qui avaient porté plainte. Covid-19, de retour, la première phase des essais cliniques de la société biopharmaceutique québécoise Medicaco testera un produit à base de plantes chez les hommes et les femmes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans. Une autre affaire qui hante notre cher Premier ministre Justin Trudeau, il a finalement admis avoir commis une erreur, c'est-à-dire ne pas se retirer des discussions lors des négociations entre son gouvernement et cet organisme de bienfaisance pour les jeunes unis. Et oui, l'opposition accuse Justin Trudeau et les membres de sa famille qui ont reçu des cachets mirobolants pour avoir donné des conférences et des sessions organisées par cet organisme. Ça fait d'ailleurs scandale à Ottawa. Merci à tous ceux, toutes celles qui ont contribué à notre dernière campagne de financement. À ce jour, je vous rappelle que nous avons amassé plus de 76 000 $. Notre objectif pour la fin de la campagne est de 100 000 $. Donc, si vous n'avez pas encore contribué à la seule, l'unique émission en langue française à la radio de l'Université de Toronto, vous avez encore un peu de temps. Allez, faites vite sur notre site www.cut.fm. Faites un don. En toute sécurité, www.cut.fm. Vous avez une nouvelle, un scoop à nous partager? Veuillez nous écrire en toute sécurité, popourrichaud@cut.fm. popourrichaud@cut.fm. Popourrichaud, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Je vous donne rendez-vous à l'île Maurice.
Troisième
potence du pension, potence, pension. Collectif Conversation Solidaire, un nouveau mouvement voit le jour à l'île Maurice. Ils étaient des centaines devant le Parlement de l'île Maurice samedi le 11 juillet dernier pour protester contre des lois COVID-19 Act and the Quarantine Act. Ces deux textes ont été rédigés au début de l'épidémie pour définir les libertés des citoyens tout au long de l'épidémie. Le jour d'après est venu, les Mauriciens peuvent à nouveau reprendre le cours de leur vie, mais ils sont nombreux à craindre l'avenir. Mais selon certains compatriotes et amis journalistes, ils trouvent que ça ne va pas si bien à l'île Maurice ces temps-ci. La colère gronde chez beaucoup de Mauriciens. Et oui, il y a même des pétitions. On trouve qu'il y a trop de corruption, trop de laisser-aller. Il y a des gens qui en profitent de l'après-Covid. Alors, est-ce une répétition de printemps arabe, de gilets jaunes en France ou de Black Lives Matter? On vous rappelle que l'île Maurice est située dans l'océan Indien près des Seychelles et l'île de la Réunion. Et Maurice fait partie, bien sûr, de l'Organisation internationale de la francophonie. Allez, je vous invite à me suivre à l'île Maurice avec Jason Morris, journaliste au People's Press. Tout de suite.
Allô, Paul.
Oui, je voudrais parler à Jason Morris, s'il vous plaît. Bonjour, vous êtes journaliste d'un tout nouveau journal numérique, People's Press Île Maurice, pour combattre les injustices, toutes les lois, les instances antidémocratiques à l'île Maurice. Vous êtes sur Facebook, YouTube, WhatsApp, et on peut même vous retrouver chez nous, à Toronto, au Canada. Alors, samedi le 11 juillet dernier, à la surprise générale, le peuple mauricien est descendu dans les rues de Port-Louis pour réclamer ses droits. Pouvez-vous, Jason, en deux mots, nous expliquer un peu les récriminations, les doléances des Mauriciens face au gouvernement et à la MBC, hein, qui est la radio et la télévision nationale de l'île Maurice?
Déjà, en fait, de pouvoir comprendre la manifestation, il faudra remonter à la période où un couvre-feu sanitaire était en vigueur à Maurice. La manifestation en elle-même, c'est l'expression du Mauricien frustré et oppressé. Si nous remontons à la période où le couvre-feu sanitaire était en vigueur à Maurice, nous avons été témoins des cas de brutalité et même de torture venant des membres de la force policière. La mauvaise gérance du pays pour le gouvernement alors que la crise du coronavirus était à son apogée. aussi, on avait des milliers de Mauriciens coincés à l'étranger qui n'ont pas eu l'opportunité de retourner à Maurice avant la fermeture de nos frontières et un facteur important aussi qui était l'application de la manifestation, c'était que le système de pension original retourne. Parce que auparavant, on avait la National Pension Fund qui était le système de pension courant à l'île Maurice. Donc pendant l'époque du coronavirus, le gouvernement a décidé de tout changer. On a eu l'implémentation de la CSG. Donc tous ces facteurs font que le Mauricien s'est senti frustré et a voulu donc prendre part dans une manifestation. Maintenant, la manifestation en elle-même a été la création, l'œuvre d'un collectif syndical et aussi quelque part de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Donc le peuple mauricien a eu l'opportunité de sortir sur les rues, chose qui n'était pas possible pendant le couvre-feu sanitaire, et s'est exprimé, s'est manifesté. Vous avez fait mention de la télévision nationale, et là c'est quelque chose de très, très important parce qu'on a vu la télévision nationale. Donc quelque part, la réalité de l'événement n'a pas été broadcasted, n'a pas été diffusée le soir de l'événement. Dans le cas contraire, la NBC, la Manchester Broadcasting Corporation, quelque part, a truqué les vidéos pour quelque part montrer quelque chose d'autre qui n'est pas la réalité. C'est plus ça.
Et on dit aussi que le gouvernement actuel est en train de bâillonner un peu tous ces groupes de pression et même peut-être la liberté d'expression, parce qu'il y a beaucoup de scandales, hein, et de corruption qui sont à l'ordre du jour chez vous à l'île Maurice en ces temps-ci.
Pour être franc avec vous, les scandales, je dis que ça n'arrête pas. La liberté d'expression en elle-même, et je l'ai dit bien souvent, la liberté d'expression à Maurice, elle est morte. L'île Maurice projette une image d'elle-même qui est fausse. Donc, par exemple, nous projetons au grand public et aux pays étrangers, Maurice, c'est un pays multiculturel, c'est quelque part un peu le paradis sur terre, la liberté d'expression et tout. Donc, mais tout ça, c'est faux. Parce que dans le concret et même dans le contexte du journaliste, la liberté d'expression commence à mourir de plus en plus, et peut-être même qu'elle est déjà morte. Nous n'avons maintenant plus le droit de pouvoir s'exprimer de la façon qu'on veut. Nous avons vu dans les quelques mois qui sont passés, l'arrestation de plusieurs personnes. Pourquoi ? Parce que ces personnes avaient des opinions quelque peu contraires à celles du régime actuel à Maurice, du parti gouvernemental. Et de là, ces personnes se sont fait arrêter, mais bon, ces personnes se sont fait, ont été libérées après. Mais toujours est-il qu'on a vu les arrestations. Maintenant, parlons des scandales. Ça ne cesse d'éclater. Actuellement, à Maurice, on a le fameux scandale Saint-Louis-Gate, qui est une histoire de turbine électrique où certaines personnes auraient touché des pots de vin, disant qu'ils peuvent avoir des influences sur des politiciens et tout. Mais bon, comme je vous dis, les scandales ne s'arrêtent pas. Et là, on a vu l'oppression du gouvernement sur la population. Donc, l'oppression du gouvernement sur les individus, ne laissant pas les individus s'exprimer. C'est pour ça que je dis que la liberté d'expression, elle meurt. Aussi, l'oppression du gouvernement sur les journalistes. Parce que, aussi, les journalistes, quelque part, n'arrivent pas à pouvoir à dire la vérité comme elle est. Parce que le moment où vous dites la vérité comme elle est, le gouvernement vous considère et vous qualifie comme le journal de l'opposition. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, oui.
Donc, vous n'êtes pas un journal normal pour vous. Automatiquement, du moment que vous dites quelque chose qui est contre le gouvernement, et c'est la réalité, vous êtes qualifié comme étant un journal et la presse de l'opposition. Donc tout ceci crée des divisions à l'île Maurice.
Jason Maurice, madame, monsieur, avec nous en direct de l'île Maurice, il est journaliste à ce nouveau médium créé en 2019. People's Press à l'île Maurice. Alors, nous avons connu, Jason, les printemps arabes, les gilets jaunes en France, Black Lives Matter. Pensez-vous que c'est un mouvement qui va perdurer au fil du temps à Maurice?
Quand vous dites quel mouvement exactement, vous référez à la manifestation?
Exactement, exactement.
À samedi. Pour dire si le mouvement va durer ou pas, c'est cet élan, cette vague. C'est quelque part un peu difficile parce que le Mauricien est venu dans une manifestation, s'est regroupé pour s'exprimer, exprimer cette frustration, exprimer cette colère. Maintenant, pour que cette même élan continue, nous devons voir des changements quelque part dans la façon d'agir du gouvernement. Nous attendons que le gouvernement puisse comprendre la réalité de l'île Maurice. Parce que constamment, nous réalisons qu'on a un gouvernement qui ne comprend pas la réalité du petit Mauricien, comme on le dit dans le contexte créole, le petit Dimoun. On a un gouvernement qui ne réalise pas les difficultés que le Mauricien courant fait face. Et donc, c'est pour ça qu'on a une manifestation. Maintenant, est-ce que ceci va continuer? Je pense que oui. Parce que, auparavant, nous n'avons jamais eu une opposition qui est unie comme aujourd'hui. Nous n'avons jamais vu que des mouvements syndicaux viennent en accordité avec l'opposition parlementaire, tout comme l'opposition extra-parlementaire. Donc, de voir ce dynamisme entre le cours syndical et l'opposition parlementaire, ça c'est un bon signe. Et ceci, justement, m'emmène à penser que cette vague de manifestations, cette vague de protestations va grandir dans le futur et quels sont les outcomes de ça, qu'est-ce qu'on est supposé voir. On attend que le gouvernement cède, on attend que le gouvernement mauricien comprenne notre situation, comprenne que la vie n'est pas facile à Maurice, la vie, quelques mois de cela, c'est-à-dire avant la pandémie du Covid-19, et la vie aujourd'hui, c'est pas la même chose. On attend aussi que le gouvernement rétracte ses lois, et quand je dis rétracte ses lois, je parle du Covid-19 bill, qui avait amendé plusieurs législations à Maurice, et que le gouvernement aussi retourne le système de pension qu'on avait, ce qui est la National Pension Fund.
Et il faut rappeler aux gens aussi que l'économie de l'île Maurice compte beaucoup sur le tourisme. Et je dois ici aussi rappeler à nos auditeurs qu'il y a eu très peu de cas de Covid. Il y a eu quoi, 10 morts, 11 morts, je pense. Est-ce que vous pouvez en deux mots dire que les Mauriciens en général se sont bien comportés pendant la pandémie?
On s'est bien comporté quelque part, mais d'autre part, nous n'avons vraiment pas eu le choix. Parce que je venais parler de ça, là. Un bill qui était implémenté au Parlement, le gouvernement était en train de discuter du Covid-19 qui allait amender plusieurs législations à Maurice. La population mauricienne était contre ça. Et la réalité, c'est qu'on voulait manifester, les gens voulaient protester. Mais vu qu'on avait un couvre-feu sanitaire, allait créer de plus en plus d'arrestations. Donc nous n'avons pas vraiment le choix. Et d'autre part, en relation à la situation économique de Maurice, les choses vont de mal en pire. Et j'ai lu personnellement qu'on a eu des déclins de vols commerciaux de plus de 93%. Et Maurice, on est un petit pays insulaire qui compte énormément sur le tourisme. Donc, qui dit déclin de l'aviation, dit aussi baisse du tourisme. Et baisse du tourisme dit que nous sommes économiquement faibles. Pour être vrai, Maurice est dans le rouge.
Oui. Jason Maurice, journaliste peoplepress.co, une voix alternative, une presse différente à l'île Maurice. D'ailleurs, tous les liens de votre journal, de votre médium sera sur popourichaud.com. Je vous remercie beaucoup de cet entretien. Bravo hein, à vous et votre équipe. Félicitations. Continuez votre travail. On vous suit ici à partir de Toronto. Et que la force soit avec vous et votre équipe, cher ami.
Merci beaucoup de votre précédité pour moi.
Au revoir.
Au revoir.
Le petit jeune ne commence pas de son ravane, t'as les quais à décider, l'âme roule et t'as les yeux. Mon fils t'avait dégoûté pour
nyame, tu veux une fin entourée, les douen grand tu fais. Le petit jeune commande pas de son raban, que les guerres désirées, l'âme roule dans les yeux. Et botan, le la et le loup, dis en esclavage, on te descend dans mon égo. Ça fait moi rappel. Ben crie tes escabillés, langage que tu peux causer. Pour l'esprit continue à les enfants. Vas-y, nous en battons là. Tu sais pas, nous en la terre, grand-papa. Lève la tête, moquette l'horizon. Pour me faire vision, puis position, contre nous, pas une vraie nation. Sauti ici, nous dansons ces caravanes. Ça m'est un grand souvenir. Pour mes bananes, vite tirer. Merci les fiels, qui s'est laissé, qui m'y pitié dans nous n'aimer. Dis-toi que merci les fiels, qui s'est laissé, qui m'y pitié dans nous n'aimer. En plus, la bébé roulée pour la mer, du peux nous finir entouré, le tout est le grand tu fais. La petite jeune commande à son rabat, quand les guerres décidées, l'âme roulée dans les yeux. Les botanistes pour le lac et le loup, dis en esclavage, pour te descendre dans mon égo. Ça fait moi rappel. Crier tes escabliers, langage qui t'y fait causer. Pour l'esprit continue à les enfants. Martin Sabatouna, si c'est pas nous en la terre, grand-papa. Lève la tête, moquette l'horizon. Pour te faire vision, qui position, contre nous, pas une vraie nation. Zodie ici, nous dans ces caravanes, ça m'est un grand souvenir. Comme les bananes, vite tirer. Vas-y!
Toronto. Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute, a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le monde perd son équilibre. Les gens se dressent pour défendre une société plus respectueuse de l'environnement.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, Educ Nation, Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Je ne veux pas me positionner, ça appartient à la personne qui l'a dit. Ce que je peux vous dire, c'est que ce syndicat où nous représentons 36%, nous payons des cotisations comme tous les autres membres. Cela veut dire que nous avons notre mot à dire. Cela veut dire que nous avons notre place au sein de ce syndicat. Alors, il est totalement inadmissible que nous payons les cotisations comme les autres et que nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. Mmh. C'est ça l'absurde.
l'été 2020, le numérique à l'honneur avec Martel Presents chez Molly. Vous écoutez Popourri Show, toujours confiné sur CUT 89,5 FM. En ces temps difficiles et incertains, CUT vous accompagne avec ses chroniqueurs, ses médias partenaires et aujourd'hui plein feu sur les relations entre le service de la police de Montréal et les Noirs avec notre ami et sociologue Frédéric Boiron qui nous attend. L'après-coronavirus, ça se passe assez mal hein, à l'île Maurice. Manifestation monstre, c'était samedi dernier, le 11 juillet. À l'île Maurice contre les lois restrictives, on en parle avec un tout nouveau média et collaborateur à l'île Maurice, People's Press. Donnez la voix au peuple, donnez la voix au people. Et enfin, avant la fin de l'émission, nous recevrons Amilcar Fontaine, qui est le président de la Fondation Sylvanie Lindor, une association qui fait du travail titanesque dans la région de Toronto pour les jeunes noirs, les haïtiens francophones. Il nous invite à une séance spéciale en hommage à Lincoln Alexander, premier lieutenant-gouverneur noir de la province de l'Ontario. Pour nous joindre tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année, de n'importe quelle planète, que vous soyez, popourri@cut.fm. L'été 2020 à CUT FM à l'ère du COVID-19, je vous invite à faire le plein avec des escapades sur les grands enjeux de nos sociétés, des rendez-vous littéraires, le tout rythmé par la musique. Oui, beaucoup de musique du monde. Merci à tous ceux et celles qui ont fait des contributions extraordinaires hein, cette année, malgré la COVID-19. Lors de notre dernière campagne de levée de fonds, à ce jour, nous avons amassé près de $76,000. Je dis bien $76,000 et l'objectif à viser, comme vous le savez, est $100,000. Donc, il y a encore de la place pour ceux et celles qui veulent faire un petit don. Allez, faites vite, allez sur notre site en toute sécurité. C'est www.cut.fm ou si vous souhaitez devenir partenaire, animateur, chroniqueur, popourrichaud.com. On est avec le déconfinement en Ontario. Et oui, où en est-on? Eh bien, 24 régions de la province peuvent passer à la troisième étape. C'était mardi dernier. Toronto, le Niagara et Windsor, Essex devront attendre. Donc, prenez votre mal en patience. À ce jour, je vous rappelle, madame, monsieur, que nous recensons près de 116 nouveaux cas en Ontario. Jamais dans notre vie avons-nous été témoins de débats houleux, passionnants pour une rentrée scolaire. En Ontario, elle sera hybride, mais les parents rouspètent. Ils jugent que ce n'est pas une solution réaliste. Sur le site de Radio-Canada, on peut lire le témoignage de Magali Bouhours, mère de 4 enfants à l'école élémentaire Pierre-Trudeau à Toronto. Elle se pose plusieurs questions. Je cite, « D'un côté, j'ai envie de dire que je voudrais que les enfants retournent à l'école pour que ça leur donne un sens de normalité et qu'on puisse reprendre une routine plus habituelle. Mais d'un autre côté, je ne sais pas à quel point ça va être bon pour eux et ou peut-être plus traumatisant que de rester à la maison avec leurs parents. Je vous rappelle que la plupart des conseils scolaires en Ontario préparent leur plan de retour à l'école pour le mois de septembre, donc à suivre attentivement. Été 2020, une saison estivale sans festival, ni concert en plein air, pas de spectacle communautaire au Harbourfront Center cette année, pas de festival Zouk avec Fkazo, pas de festival de jazz, de Caribana. Eh oui, COVID-19 en est la grande responsable. Cet état comble dans le monde du spectacle engendra des pertes financière de centaines de millions de dollars pour la ville de Toronto. En dernière heure, nous apprenons que la ville de Toronto annule tous les festivals jusqu'au 30 septembre. Le festival Nuit Blanche, par contre, sera présenté en version virtuelle le 3 octobre prochain. Au Québec, le monde culturel est en état de choc. Depuis quelques semaines, il y a un vrai lynchage, rupture de contrat de personnalités, des artistes très connus suite à des dénonciations sur leur comportement, les accusent de racisme, d'homophobie, de sexisme. Eh oui, nous sommes en 2019 et voilà qu'il y a un rapport. Ça se passe à Montréal. Hein. Il y a un rapport qui démontre que les Noirs, les Autochtones, les Arabes sont fortement discriminés par le service de police de la ville de Montréal. Des données qu'on a voulu peut-être un peu camoufler, comme font bien de police, de forces policières en Amérique du Nord,
Ces chiffres démontrent clairement que les jeunes noirs à Montréal sont interpellés de manière très disproportionnée par rapport à la taille de sa population. Un rapport qui choque la communauté noire, la communauté haïtienne. Mais rien ne se passe vraiment. En juin 2020, récemment, la mort de George Floyd et les manifestations et révoltes qu'on a pu assister un peu partout sur la planète, y compris à Montréal, changent la donne. Le 16 juin, Sylvain Caron, chef du service de police de la ville de Montréal, reconnaît explicitement et publiquement qu'il existe du racisme et du profilage racial systémique au sein de son corps policier et qu'il s'engage à y remédier rapidement. Mais le clou de sa conférence de presse, qui a surpris plus d'un, le service de police de la ville de Montréal accepte de se faire critiquer. Eh oui, cela se fera par un tout nouveau conseiller à la police de Montréal, qui est nul autre, madame, monsieur, celui qui porte plusieurs chapeaux. Il est chroniqueur à notre émission, sociologue, professeur, auteur, blogueur, Frédéric Boiron, qu'on appelle tout de suite.
Oui, allô?
Frédéric Boiron.
Oui, bonjour.
Bonjour, ici Eric Kader de CUTFM.
Oui.
Alors, c'était tout un honneur pour nous, encore une fois, de vous recevoir à notre antenne. Et merci d'être là. Alors, les projecteurs étaient rivés la semaine dernière sur vous, en tant que nouveau conseiller à la police de Montréal. Et M. Sylvain Caron, directeur du service de police de la ville de Montréal, a finalement dévoilé cette nouvelle politique, une nouvelle approche chez les policiers de Montréal. Et cette nouvelle stratégie fait place à des interpellations basées sur des faits observables. Pour les communs des mortels, mon cher monsieur Caron, monsieur Boiron, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
En réalité, c'est un aveu du service de police, comme quoi qu'il y avait des interpellations qui étaient faites de façon très aléatoire, où on utilisait des prétextes pour stopper les gens, et ces prétextes pouvaient relever d'à peu près n'importe quoi, hein, incluant des comportements racistes, misogynes, homophobes et autres, dont les victimes en particulier étaient les gens de la communauté noire, les gens de la communauté maghrébine et les femmes autochtones. Donc les données statistiques sont claires là-dessus. Donc pour moi, ce que ça veut dire surtout, c'est que le service de police admet qu'il y a eu ce genre de comportement et le service prend des moyens maintenant pour éviter de donner cet espace aux gens complexés pour qu'ils puissent exécuter ce genre d'idéologie.
Il faut dire aussi que dans la foulée des manifestations George Floyd et sous des pressions sans doute, le 16 juin dernier, le chef du service de police de la ville de Montréal, M. Caron, a finalement reconnu publiquement, et je cite, « La SPCVM reconnaît le caractère systémique du racisme et de la discrimination et nous nous engageons à agir pour les combattre. » Pensez-vous justement que cette admission, qui est un peu à la mode ces temps-ci, va faciliter de meilleures relations avec les groupes concernés?
D'abord, le SPCVM ne pouvait pas présenter une politique de cette manière-là et ne pas admettre en réalité qu'il y avait du racisme systémique. Parce que le racisme systémique, c'est quoi? C'est justement qu'à l'intérieur du système, il y a des lois, des règles, des politiques qui, même si elles ne sont pas explicitement racistes, même si elles ne sont pas explicitement racistes, je le répète, elles permettent quand même, ces politiques, ces lois, ces règles permettent quand même aux racistes de pouvoir exécuter des gestes, de poser des gestes et de faire des choses qui sont à l'intérieur, qui sont condamnables, quoi. Donc de dire qu'on change une loi parce que justement c'est un règlement, parce que ce règlement permet de le faire, c'est une admission de facto de ça. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut s'assurer que les barrières sont claires, qu'elles sont précises, parce que il y aura toujours des racistes dans le service de police de Montréal, comme dans toutes les organisations. que les barrières qui sont mises vont être vraiment efficaces. C'est là tout le défi qu'il y a. Et j'ai accepté de travailler avec le directeur de la police, que je crois sincèrement de bonne foi, pour qu'on puisse arriver à corriger ce genre de situation, à ajouter des éléments supplémentaires pour éviter aux gens, aux policiers qui seraient racistes, ce n'est pas une majorité, de pouvoir continuer à discriminer les gens.
Je rappelle, madame, monsieur, que nous sommes avec Frédéric Boiron, sociologue, professeur, auteur, blogueur, consultant et nouveau conseiller à la police de Montréal. Et on le sait, vous avez la parole facile. Vous étiez présent à la conférence de presse lors du lancement de ces nouvelles politiques. Et vous n'avez pas hésité devant les caméras de montrer vos vraies couleurs lorsqu'on vous a demandé si vous croyez à ce virage chez la police de Montréal. Vous avez dit, et je cite, « Je n'ai pas à croire à ce qu'ils disent maintenant. C'est à eux de prouver ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire va être effectivement réalisé. » Donc, c'est assez fort, hein, vous n'avez pas eu froid aux yeux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, vous savez, les gens disent n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je trouve ça très dangereux, on vous traite d'extrême droite, alors des groupes d'extrême droite plutôt, vous prennent pour un sauté, un malade, un extrémiste de gauche qui vient s'enfourrer dans les affaires et qui ne le regarde pas. Comment allez-vous faire pour justement garder la tête haute et qu'on vous prenne au sérieux dans tout ce que vous allez faire avec la police de Montréal?
Vous savez, moi je crois que s'il fallait s'arrêter à ce que les gens pensent de moi, ça fait longtemps que je me serais tue. Donc je n'ai pas quelque chose qui fait partie de mes critères d'analyse, à savoir est-ce qu'on me traite de nègre, de servile, de coon. J'ai vu plein de choses passer sur les médias sociaux, de vendu.
Incroyable, incroyable.
J'ai tout vu. Mais c'est pas la première fois. On a toujours eu ce genre d'opinion sur moi dans différentes batailles que j'ai menées. Mais l'idée, c'est que quand moi je me regarde dans le miroir le matin, je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire, je contribue, je participe à la recherche de solutions. Vous savez, j'aurais pu refuser cette affectation-là avec la police de Montréal. Ce qui serait arrivé, c'est que je serais resté chez moi mercredi dernier, assis devant ma télé, et regardé le service de police embaucher un sociologue blanc, et on leur aurait posé la question à savoir, mais pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un de la communauté? Et ils auraient répondu, ben on a cherché, on n'a pas trouvé. Et moi, je serais là, et j'aurais pas pu dire à qui que ce soit que c'était moi qu'on avait cherché et qu'on n'avait pas trouvé, parce que j'avais refusé. Je n'avais pas le droit de refuser. Je n'avais pas le droit de ne pas participer à la recherche de solutions.
Et au moins essayer. Comme ça, on aura dans les annales que vous avez, Frédéric Boiron, a essayé d'émettre des commentaires, une position ou encore des conseils, mais que ça n'a pas passé pour différentes raisons. Mais au moins, vous avez essayé de travailler en collaboration et de bonne foi avec le service de police de Montréal, n'est-ce pas?
On m'a tendu la main. On me connaît. On sait qui je suis. On sait ce que j'ai déjà dit et je ne retire pas mes paroles. On sait quel genre de propos je tiens. On me connaît. Le service de police de Montréal a fait une enquête exhaustive sur moi. Ils ont lu ce que j'ai écrit. Ils connaissent mon parcours. Ils ont fouillé dans toutes sortes d'éléments, même les finances personnelles. Ils
ah oui.
Partout. On ne m'aurait pas assis à côté du chef de la police de Montréal s'il y avait quoi que ce soit dans mon placard. Alors je peux vous garantir que maintenant, une fois que je vous dis ça, et gardez bien ce que je vous dis, ne le perdez jamais. C'est le service de la police qui m'a invité à sa table. C'est eux qui ont l'obligation de me garder jusqu'au dessert. Moi, je n'ai rien à me reprocher et s'il faut me sortir de là, il va falloir inventer un scandale parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien dans mon placard, ils ont tout fouillé. Maintenant, le service de la police de Montréal a pris cet engagement avec moi pour faire avancer des dossiers, pour corriger des politiques qui sont discriminatoires. Nous allons travailler ensemble. Je ne me mets pas dans un mode de confrontation avec le service de police. Je ne suis pas en confrontation. Je suis à la recherche de solutions, à la recherche de compromis, à la recherche de d'outils, de meilleurs moyens de respect de la dignité des gens de toutes les communautés, incluant des Québécois blancs. Parce que quand qui que ce soit est victime de discrimination, nous sommes tous victimes. Qu'il s'agit des gens de la qu'il s'agit d'homophobie, de misogynie, de racisme, de d'antisémitisme, nous sommes tous victimes. Alors moi, je veux évidemment m'assurer que les communautés les plus ciblées, donc la communauté noire, les communautés autochtones, et soit les communautés maghrébines, soient respectées.
Alors, vous savez qu'on parle beaucoup de vous, hein, à Ottawa, à Toronto. Les gens sont très, très heureux de vous voir là où vous êtes arrivé. Mais en même temps, il y en a qui craignent qu'on vous coupe les herbes sous les pieds, parce que j'ai parlé à beaucoup d'ex-fonctionnaires au niveau fédéral, provincial, et on dit bien souvent on place des autochtones, des personnes de couleur, de noirs et d'autres minorités dans des postes très élevés, mais après, c'est des couteaux tirés dans le dos et ça fait mal à la communauté et finalement personne n'ose postuler pour des postes à grande échelle à l'avenir. Donc vous comprenez un petit peu le dilemme, hein, de certains qui ont vécu des histoires.
Je comprends parfaitement ce que les gens disent. Je respecte ces opinions-là. La seule chose que je dis, c'est que à un moment donné, il faut, même si au bout de la ligne, la preuve est faite une fois de plus qu'il n'y avait pas une volonté de collaborer et que finalement on voulait faire un spectacle, on a fait un beau spectacle, même si c'est ça, mais ce sera ça comme résultat, de prouver qu'il n'y a pas de véritable volonté de travailler sur les dossiers. Cependant, je réitère que, premièrement, je sens qu'il y a une volonté, et probablement on me dira, oui, mais c'est toujours comme ça, il manque une volonté, puis après il se retire. Je réitère quand même que je trouve qu'il y a une bonne volonté de travailler, et je réitère aussi qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a l'habitude de mener des batailles et d'en gagner.
Et je rappelle aux gens que le rapport de la police de Montréal recommande, entre autres, que des formations consacrées explicitement à la lutte au racisme et à la discrimination doivent être obligatoires pour l'ensemble de la fonction publique municipale, employés, professionnels, cadres, ainsi que pour le personnel des sociétés paramunicipales. Ce sera intéressant de voir la suite, n'est-ce pas? Et en tant que consultant pour les enquêtes sur l'équité en matière d'emploi, moi-même, je peux dire que c'est pas une tâche tout à fait facile. Quel sera, en deux mots, votre rôle spécifique?
Moi, d'abord, dans les prochains jours, je vais m'asseoir avec les gens du service pour analyser cette politique qu'ils viennent de déposer sur les interpellations, pour voir. Maintenant, on a une politique, mais il faut voir comment cette politique va se déployer. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, dans cette politique-là. Il y a des choses qui ont échappé aux journalistes, mais qui ne m'ont pas échappé à moi. Parce que je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Je vous donne un élément. Le troisième élément de cette politique prévoit une intervention, qu'une intervention doit être faite auprès des personnes qui abusent du système, donc des racistes qui utilisent la police pour exécuter des choses. On l'a vu dans le parc aux États, à New York, je crois, où cette dame a appelé la police pour une histoire de chien qui n'était pas en laisse. Mais elle a utilisé la police.
Et en plus, c'est une Canadienne, hein? Cher Frédéric Caboiron, je vous souhaite bonne chance et tenez-nous au courant de la suite du lancement de votre prochain livre. Mesdames, Messieurs, c'était tout un plaisir de recevoir celui qui jette un regard critique sur l'état de nos démocraties Il est auteur, blogueur de « Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit » et de « Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale », »,« La distanciation sociale, la vraie ». Et je pense le prochain livre ou blog, c'est « Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite », n'est-ce pas?
C'est bien ça, ça va sortir bientôt, la date va être annoncée quelques jours. Évidemment, vous serez parmi les premiers à connaître les tenants et aboutissants.
Vous avez beaucoup, beaucoup d'adeptes, beaucoup de fans, en tout cas ici, chez les professeurs, les étudiants, les auditeurs, et on admire ce que vous faites. On vous invite donc à garder le contact. Vous pouvez, madame, monsieur, vous abonner à son blog sur frédéric-boiron.com. Je vous souhaite bonne chance, bon succès, et que la force soit avec vous, Frédéric.
Merci beaucoup et au plaisir de se parler bientôt.
Au revoir.
Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
Regardez, se passe de quoi? On le sent dans l'atmosphère. Ne me demande pas pourquoi on déteste la loi, son visage est par terre. On crie à l'aide, l'amour n'est plus le remède. La honte est rendue le maître en dehors de mon aide. C'est la haine qui succède. Action et conséquences, une famille qui porte le deuil. Petit pays en souffrance, moi et l'âme sur ma feuille. C'est rendu moi contre toi, toi contre lui, lui contre elle, nous contre vous, c'est la guerre. Une haine qui coûte cher. Et on
en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
Violence erronée, fierté menottée, futur emprisonné, yo on en a assez, tanné de crier, on est fatigué, on est écœuré, yo on en a assez.
On en a assez, on en a assez, racisme et sexisme, on en a assez, acte d'égoïsme, on en a assez, corruption dans la police, on en a assez.
Écoutez la planète chanter.
Khouya Salah, Khouya Salah, Turquie.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappelle à ton souvenir.
Adrabe la cosa, dingue da,
dingue da,
écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Ladybug, chat noir, je suis inquiet. Un nouveau super vilain a fait son apparition. Et celui-là, vous ne l'arrêterez pas avec vos super pouvoirs. Il est tellement minuscule qu'on ne peut pas le voir, ce qui le rend encore plus dangereux. Car il s'agit d'un virus invisible et impitoyable. Mais je vais vous apprendre une technique ancestrale très efficace qui vous permettra de lutter contre lui. Tout d'abord, il faut bien se laver les mains avec du savon plusieurs fois par jour.
Ah, c'est super, Adrien. Toi aussi, tu te laves les mains?
Oui, c'est important pour se protéger et pour protéger les autres.
Oui, c'est important d'être protégé.
Il faut tousser et éternuer dans votre coude, jamais dans votre main.
Qu'est-ce que t'éternues bien, Adrien?
Merci, Marinette.
Il ne faut plus toucher ou embrasser tant que ce vilain virus est là.
Hein? Plus embrasser? Vraiment?
Chat noir!
Désolée.
Et enfin,
Il ne faut utiliser que des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après utilisation. Tiens.
Merci.
De rien, Marinette. Voilà ce qui vous permettra de vaincre ce vilain virus. Les gestes simples sont les plus efficaces. Vous devez transmettre ce message à tout le monde. Bien compris, maître.
Est-ce que je peux vous l'emprunter? Se protéger, protéger sa famille.
Protéger celles et ceux qu'on aime. C'est ensemble qu'on vaincra ce virus.
News. Business. Life. Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. De Malabo à Nairobi, de Tunis à Cape Town, Africa 24 vous guide au cœur de l'actualité internationale et de l'actualité africaine. Avec Africa 24, le monde s'ouvre à vous grâce à un réseau exceptionnel de correspondants. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale à chaque heure. Africa 24 est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique et par l'Afrique. Les infos du monde pour l'Afrique, les infos d'Afrique pour le monde. Africa 24. News. Business. Life.
RFI. La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un rayon filles et garçons, à part pour les caleçons et culottes. Je vois pas pourquoi il y aurait des habits spécialement pour les garçons et des habits spécialement pour les filles. Tout le monde peut porter les vêtements qu'il veut, quoi.
Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées.
Maintenant, il faut des mots.
Ça dure toute la vie, Minevation. C'est tout le temps à refaire.
Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
Frappe à ma porte, non je n'ouvre pas. Je vous en prie, ne m'approchez pas. Je suis bien trop fragile. Les temps sont difficiles. Pourtant ce soir j'ai beau m'inventer des mots d'amour, des contes de fées. Je suis seul chez moi. Entendez-moi. Ça va bien aller. Ça va bien aller. En effet, plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout, ça va bien aller, ça va bien aller, car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. Mes amis qui se battent aujourd'hui contre cette chienne de maladie, j'ai les chiffres en horreur, ça me déchire le cœur. Pourtant ce soir, si on prend soin de nous, j'ai encore espoir, si nos anges tiennent le coup, qu'on va tous pouvoir bientôt se revoir. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller. Car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel. Ce n'est pas la fin de nous, ce n'est pas la fin de toi, ce n'est pas la fin de tout. Chante avec moi. Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout.
Ça va bien aller, ça va bien aller. Car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel.
Ça va bien aller, ça va bien aller. On est fait plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien. On était plus fort que tout, unis ensemble jusqu'au bout. Ça va bien aller, ça va bien aller. Car au bout du tunnel, il y a un arc-en-ciel.
Le nombre de contaminations a battu un nouveau record hier. L'histoire du jour vient des États-Unis. Des jeunes américains organisent des soirées loterie Covid.
Oui, des soirées où le premier contaminé remporte le gros lot. Ça paraît fou, mais la chaîne américaine CNN a bien vérifié l'existence de ces fêtes dans l'état de l'Alabama. Lors de ces soirées payantes, des personnes infectées, positives au coronavirus, sont invitées à faire la fête avec des jeunes qui veulent contracter volontairement le virus. Ensuite, le premier de ces jeunes, dont le médecin confirme la contamination, a gagné. Il remporte l'argent de la vente des billets, une sorte de tombola du virus, confirmée par les autorités locales et notamment les médecins de l'état de l'Alabama, un état dans lequel le nombre de cas signalés explose ces derniers jours, un peu comme partout aux États-Unis.
Oui, nouveau record donc, plus de 53 000 nouveaux cas positifs en 24 heures aux États-Unis.
Et oui, incroyable ce que vous venez d'entendre est bien vrai, c'est une vraie histoire, c'est un extrait de la très populaire émission du matin en France, Bourdin en direct. Tenez-vous, madame, monsieur, qu'en Alabama, des jeunes organisent des soirées loterie Covid. Le premier contaminé remporte la gagnotte. Et oui, cela ressemble à une folle rumeur ou une grosse blague. Et pourtant, nous avons vérifié l'information et elle semble bien avérée. Des jeunes américains organisent des soirées Covid-19 à laquelle assistent des personnes atteintes de coronavirus et la première personne infectée reçoit un paiement. L'Alabama est un des États américains où le virus est en pleine recrudescence. On y a signalé environ 39 000 cas confirmés de coronavirus et près de 1000 décès. Et oui, les nouveaux cas de la Covid-19 ne cessent d'augmenter aux États-Unis. Mardi dernier, il y avait près de 60 000 nouveaux cas de Covid-19. Et en 24 heures, une tendance qui a poussé certains États à faire marche arrière sur l'ouverture de leurs commerces et services. Beaucoup d'Américains dénoncent l'attitude de Donald Trump. Mardi, lors d'un long monologue décousu de près d'une heure, Donald Trump à la traîne dans les sondages derrière son adversaire démocrate à 110 jours de l'élection a laissé éclater sa frustration. Le monde des médias en France est en pleine ébullition. Le 10 juillet dernier marquait la dernière matinale de Jean-Jacques à Bourdin, l'animateur vedette de RMC. Pendant 19 ans, Bourdin, tantôt agressif, tantôt sensible, a reçu les éloges des membres de son équipe, anciens comme actuels, qui ont enchaîné les interventions. L'émission a été marquée par beaucoup de séquences émotions, parmi ses fidèles auditeurs, des chauffeurs de taxi de la capitale et des gens simples partout en France ont souligné avec tristesse son départ. D'ailleurs, un chauffeur a tenu à témoigner 30 ans de taxi, 15 ans de Jean-Jacques Bourdin pour Hervé, chauffeur parisien de 54 ans. Pas de course matinale sans la voix grave de son animateur vedette qui tourne ce vendredi une page d'une rare longévité. 19 ans d'antenne de 6h à 9h. J'aime les gens qui ont de la personnalité, du charisme. Il faut une grande gueule comme lui pour une émission comme ça, lâche-t-il main sur le volant face à l'Opéra Garnier. Aussitôt libéré, Jean-Jacques Bourdin n'a pas hésité à attaquer frontalement son patron au sujet du plan social qui touche le groupe Next Radio TV. Après 19 ans à la tête de la matinale de RMC, Jean-Jacques Bourdin a eu du mal à cacher son émotion lors de sa dernière émission de ce vendredi 10 juillet. Bien que l'animateur de 71 ans continue de mener l'interview politique de 8h30, diffusée en simultané sur BMF TV, il a tenu à remercier ses équipes et ses auditeurs, en particulier sa femme Anne Niva. Nous avons concocté d'ailleurs pour vous un petit montage sur les meilleurs et les pires moments de Bourdin direct sur RMC. Et juste après, nous aurons un reportage sur les destinations vacances des Français cet été.
Mais vous dites des bêtises, Nadine, vous ne maîtrisez pas le sujet.
Vous ne savez pas, Christian,
beaucoup.
Non, monsieur Bourdin. Quand vous venez travailler aux États-Unis.
Oui. Mais vous l'avez dit hier.
Je ne dirai pas ça. Je n'ai pas dit ça.
Vous êtes invité ce matin, vous dites le contraire de ce que vous avez dit hier.
Quelle est la capitale de la Slovénie? Ljubljana. Et de la Slovaquie, tiens. Non, Bratislava. Combien font 7 fois 9? On a combien de sous-marins?
Je vous ferai la même réponse.
Lanceur d'engin. Aujourd'hui,
nous en avons un.
Nous en avons sept.
Oui, sept.
Sept.
Mais non, comme, j'arrête cet entretien si vous êtes incapable.
Mais vous êtes incapable de répondre à toutes mes questions.
Et une tranche de 100 euros sur ce salaire. Les charges.
100 euros.
Oui, pardon, 100 euros oui. Sur le salaire. Pardon pour,
non,
pour
non,
cette
c'est
liaison.
Pas grave, c'est pas, c'est, ça arrive. On peut le renouveler combien de fois le CDD?
3 fois.
Combien?
Jusqu'à 3 ans.
Jusqu'à quoi? Non, mais combien? Mais Amel Khomri.
Un CDD.
3 fois. Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien?
Un CDD peut être requalifié en CDD.
Près d'un mois après le début du confinement, les Français sont nombreux à penser aux vacances d'été. Pourtant, le gouvernement déconseille pour l'instant de planifier quoi que ce soit, d'autant plus si c'est à l'étranger.
Pour ceux qui veulent le faire, il est vraiment souhaitable, indispensable, de passer par les réseaux traditionnels pour avoir la garantie de pouvoir différer leur séjour ou de pouvoir avoir un avaloir ou un remboursement.
En Europe, les frontières de l'espace Schengen fermées depuis le 17 mars dernier pourraient le rester durant l'été. Face à ces limitations de déplacement, beaucoup de Français devraient donc privilégier l'Hexagone.
Il y a 7 à 8 millions de Français qui partent en vacances d'été à l'étranger, qui risquent de rester en France cet été.
Malgré les incertitudes, les professionnels du tourisme misent sur juillet et août pour remonter la pente. Actuellement, les réservations sont presque au point mort dans les campings français. Mais pas question d'augmenter les prix pour autant.
Si nous perdons la fréquentation et qu'en plus le chiffre d'affaires venait à fondre à cause d'une guerre des prix, ce serait terrible pour l'économie touristique et pour notre secteur d'activité. Je pense que les prix vont rester stables par rapport à ce qu'ils devaient être.
En vue du déconfinement, de nombreux établissements touristiques commencent à réfléchir à la mise en place de mesures sanitaires, comme des procédures de désinfection ou des dispositifs de distanciation entre les clients.
Ça va bien. Ah, vous nous faites plaisir. Nous pas même vivre ici. Levez la main.
qu'on voit, ce cap qu'on s'y panne pour blanc. Pourtant, c'est ça, la vie, la règle, qui j'en se fait pour que ça t'aime. Ce cas, c'est ça, le médicament de mouni. 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 Si c'est ça, mais avant nous, ok, en noir.
Ensemble. Yeah. Quand tu vas faire tes courses, yeah, respecte la distance. Yeah. Quand tu pousses ton chariot, yeah, tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Suis les consignes
et tu galopes.
Et tu respectes la ligne
ou tu l'échappes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Suis les consignes
et tu galopes.
Et tu respectes la ligne
ou tu l'échappes.
Lave tes mains au désinfectant.
machine. Tu dois avoir ce feeling pour les autres gens dans la même galère. Ensemble, ensemble, tu stoppes.
Le masque est une mesure barrière qui peut protéger contre cette propagation du virus.
Parce que bien s'informer permet de mieux se protéger, nous allons voir que non, le port du masque n'immunise pas contre le coronavirus.
Immuniser contre la COVID-19, je n'irai pas jusqu'à l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que le masque est une mesure barrière. Évidemment, il y a masque et masque. Il faut qu'il assure une certaine étanchéité. C'est ainsi pour les patients ou les praticiens de la santé qui sont au contact de patients. Il y a des types de masques, notamment le masque FP2, le masque N95, qui sont tout à fait validés, homologués, notamment par l'Organisation mondiale de la santé pour la protection. Il y a des masques chirurgicaux que depuis des lustres, les chirurgiens, les médecins utilisent lorsqu'ils sont en salle d'opération, d'intervention chirurgicale ou en consultant les malades. Mais l'immunisation devrait, au moins celle naturelle, passer par le fait de rencontrer, c'est le principe même des vaccins, de rencontrer des germes, s'agissant de vaccins, des germes atténués qui vont susciter une réaction de l'individu humorale ou une réaction à médiation cellulaire. Le masque, à mon humble avis, n'immunise pas, mais le masque est une mesure barrière qui peut protéger contre cette propagation du virus qui utilise essentiellement la voie aérienne comme évoqué antérieurement.
D'où vient cette rumeur ?
Certainement, comme il y a énormément de fake news, quelqu'un écrivait, et je le trouve assez génial, en disant les réseaux sociaux ont donné, je m'excuse du terme, même à des imbéciles, l'occasion de parler. En ce moment-là, n'importe qui dit n'importe quoi, sans évoquer, quoi qu'il en soit, et surtout, les principes même, basiques, fondamentaux de l'immunisation. Le masque est une mesure barrière. Le masque ne va pas immuniser un individu, il est difficile de le comprendre. Les cellules qui participent à l'immunité sont des cellules charriées essentiellement par la voie sanguine et au niveau des tissus. Le masque étant une barrière entre le milieu extérieur et intérieur, difficile de concevoir dès lors qu'il puisse apporter une quelconque immunisation.
Comment se protéger du coronavirus ?
Les gestes barrières, c'est la chose la plus importante, notamment éviter les grandes agglomérations, les foules. Laver régulièrement les mains, on sait que ce virus peut demeurer assez longtemps sur certaines surfaces et la main qui passe par là, lorsqu'elle touche après les muqueuses conjonctivales, nasales ou buccales, il peut être transmis de cette manière-là. Donc évitez déjà, en lavant les mains par l'eau, savon, les gels hydroalcooliques, évitez de s'embrasser, de se serrer les mains par des salutations. Étant donné sa transmissibilité par la voie aérienne, la toux, le chant, le parler, etc., lorsqu'on postillonne, par exemple, le port du masque est une des mesures barrières qui est tout à fait promulguée dans mon pays et pour laquelle on se bat pour qu'effectivement ceci puisse passer dans les habitudes et surtout en lieu public.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Adra bella cosa, ding e dong,
ding e dong.
Écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5 Toronto.
Et il y a aussi nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau-coronavirus.
Les colons français, venus au début du XXe siècle en Côte d'Ivoire, ont laissé derrière eux des orphelins métis, arrachés à leur mère, séparés du reste de la société. En quête de leurs origines, ces descendants cherchent des réponses et une reconnaissance nationale.
Je me considère comme une victime de la colonisation.
Nous étions pupilles de l'État, donc comment pouvons-nous ne pas être français? C'est une aberration.
Découvrez dans Reporter cette semaine les histoires hors du commun de ces orphelins de la nation.
Reporter Le Doc, à voir sur France 24 et France24.com.
The reason we could never be who we wanted and dreamed of being is you kept your knee on our neck. We were smarter than the underfunded schools you put us in, but you had your knee on our neck. We could run corporations and not hustle in the street, but you had your knee on our neck. We had creative skills. We could do whatever anybody else could do, but we couldn't get your knee off our neck. What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks.
Et oui, mesdames, messieurs, vous êtes bien en mode compas sur Popourri, Popourri Show, en mode confinement sur CUT 89.5 FM à Toronto. Nous venons de recevoir un message d'un auditeur québécois qui a eu quelques démêlés linguistiques lors de son dernier séjour en Floride et il a tenu à nous partager son expérience juste après l'entretien avec notre prochain invité, dernier invité de la journée. Une fois de plus, je salue au nom de toute l'équipe l'enthousiasme et la fidélité de tous nos auditeurs qui ne cessent de nous émerveiller. Et oui, chaque jour on reçoit des mails et des messages, donc un grand merci. Et vous continuez à nous émerveiller, à nous surprendre. Chaque jour, donc, nous voyons ces petits gestes de solidarité, de générosité autour de nous. Merci du fond du cœur pour vos messages, vos dons, vos suggestions, vos conseils, vos bons plans. Vous nous donnez espoir malgré cette crise qui sévit dans notre quotidien. Donc, ce qui me laisse penser qu'il y a un feu en chacun de vous, une lumière au bout du tunnel, ça fait du bien. Merci à tous ces artistes, une animatrice de Radio-Canada qui viendra bientôt nous partager ses défis, ses expériences pendant le confinement, des autrices, des auteurs, des artistes qui ont accepté d'être parmi nous cet été. Oui, malgré les difficultés, l'été sera chaud à l'antenne, à écouter, à consommer avec modération. Et un grand merci à tous nos invités de ce dimanche, le professeur et sociologue chroniqueur de Popourri Show, Frédéric Boiron, en direct à Montréal, Jason Morris, journaliste et nouveau collaborateur de People's Press à l'île Maurice, merci d'être des nôtres, DJ Devera à Toronto, Amitlé Fontaine, président de la Fondation Sylvanie Lindor, qui sera des nôtres dans quelques minutes, pour nous joindre tout au long de la journée, de la semaine et tout au long de l'année. Popourri Show, non, popourri@cut.fm. Qu'est-ce que je raconte? Popourri@cut.fm. La Fondation Sylvanie Lindor de la région de Toronto poursuit sa quête de rassembler, de sensibiliser et d'éduquer les minorités raciales à la justice et l'équité sociale dans la grande région de Toronto. Et on veut donc sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes de la communauté, de la diaspora africaine, antillaise. On vous donne rendez-vous le vendredi 24 juillet. Pour une séance de réflexion, de partage sur une des personnalités méconnues de nos jeunes francophones en Ontario, Lincoln Alexander, le premier lieutenant-gouverneur noir de l'Ontario de 1985 à 1991, député, avocat, fonctionnaire en Ontario. En reconnaissance de ses nombreuses réalisations importantes, le 21 janvier est célébré, comme vous le savez, comme la journée Lincoln Alexander à travers le Canada depuis 2015. Donc cette séance Lincoln Alexander est organisée donc par la Fondation Sylvanie Lindor dans le cadre du projet Toronto Youth Action for Change qui vise à lutter contre le racisme systémique et anti-noir. Plusieurs experts noirs, des panélistes hommes et femmes, conférenciers très connus dans la communauté anglophone et francophone seront au rendez-vous. On vous donne rendez-vous. On en parle tout de suite avec le président de la Fondation Sylvanie Lindor, Amitlé Fontaine.
Sylvanie Lindor Foundation, Amitlé speaking. Bonjour, comment puis-je vous aider?
Monsieur Amitlé Fontaine, bonjour. Ici Ricardet de CUTFM.
Bonjour.
Ça va très bien. Alors, merci de prendre quelques minutes. Je sais que vous êtes très occupé pour répondre à nos questions. Pourquoi organisez-vous cette séance à Lincoln Alexander et quelles sont vos attentes?
En fait, Lincoln Alexander n'est pas très connu au Canada. Donc, c'est un personnage de premier à plusieurs circonstances. Il est le premier homme noir élu député fédéral dans le Parlement canadien en 1968. C'est aussi la première personne ayant devenu le ministre dans le cabinet ministériel. C'est aussi la première personne noire ayant aussi élu donc, le lieutenant-gouverneur de l'Ontario. Nous sommes dans un mix aujourd'hui de deux pandémies. La COVID-19 et aussi la lutte contre le racisme anti-noir, le racisme systémique, le racisme institutionnel. Donc la science, l'Institut Alexander, c'est notre moyen à nous de rendre hommage à cet homme noir donc, qui a tracé le chemin. Donc, pour des générations comme moi et la génération qui va venir. Donc, c'est ça. C'est ça l'idée, de rendre hommage à lui. Donc, de parler de ses atouts, de tout ce qu'il a fait. Donc, c'est plusieurs séances qui ont été faites avant. Il y a la séance de Mathieu D'Acosta, il y avait aussi la séance de Viola Desmond, et maintenant, c'est le tour de Lincoln Alexander.
Alors, on vous voit, vous êtes très actif hein, sur les réseaux sociaux. La Fondation Sylvanie Lindor est très, très, très active. Et depuis la mort, justement, de George Floyd, nous avons vu l'exaspération des jeunes noirs aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Canada, à Toronto. Quelles sont, justement, en deux mots, quelques revendications des jeunes noirs francophones de Toronto?
Mais une chose que je veux dire par rapport aux jeunes noirs francophones à Toronto, nous sommes dans la période de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Ce qui est marquant, c'est que la décennie des personnes d'ascendance africaine n'est pas célébrée en Ontario par la francophonie ontarienne. Et si on regarde, la francophonie ontarienne est un instrument qui incarne le racisme systémique ou le racisme noir. Très peu de personnes d'ascendance africaine sont représentés dans des positions élevées dans des institutions franco-ontariennes, que ce soit le commissariat de services en français, l'Université de l'Ontario français, la TFO, les Radio-Canada. Donc, c'est un processus de racisme systémique qu'on a parlé, qui présente l'homme ou la femme noire comme étant un citoyen ou une citoyenne de deuxième zone. Une personne qui n'est pas à la hauteur. Donc, la mort de George Floyd, comme vous avez mentionné, c'est pas c'est nouveau dans le racisme systémique. Donc, on en a assez au Canada. Donc, pour parler du racisme systémique, que ce soit à Montréal, dans les banlieues de Montréal-Nord, à Halifax, à Ottawa, à Toronto. Donc, c'est un processus qui écarte l'homme et la femme noire dans toute possibilité d'ascension, dans toute possibilité d'émancipation. Donc, notre revendication, c'est la promotion des vivants femmes, donc l'égalité des chances, la participation de toutes, à tous les niveaux de la société, de la politique fédérale, de la politique provinciale, de la politique et de municipalité, de retrouver des noirs, des jeunes noirs, surtout dans des positions comme des CEO, dans des positions élevées.
Alors le vendredi 24 juillet, la Fondation Sylvanie Lindor, Madame, Monsieur, vous donne rendez-vous à une séance spéciale de réflexion, de partage, hommage sur l'une des personnalités méconnues de nos jeunes francophones en Ontario. Pas seulement des jeunes francophones, hein, je pense qu'en général, les jeunes noirs de l'Ontario, du Canada, méconnaissent Lincoln Alexander, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises quand il était lieutenant-gouverneur général en Ontario. Amir Clayfontaine, président de la Fondation Sylvanie Lindor, nous allons bien sûr promouvoir avec tous les liens possibles sur notre site popourishow.com et on vous souhaite une très bonne chance pour le vendredi 24 juillet. Je vous remercie et que la force soit avec vous.
Merci beaucoup, ça m'a été un honneur de vous parler.
Au revoir.
Au revoir.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah.
le Florida Turnpike. Demain soir, j'étais à Montmagny. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout, ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partant fumer tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué, avec Mimi puis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. Et la question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond du cœur.
tu es lancé, tu peux plus t'arrêter. Avec ce son tangué, on va tous transpirer. Tu peux toujours swinguer, c'est bon pour la santé. La nuit vient de commencer, ça va déchirer. Tout le monde peut s'éclater et même se remuer. Se marrer, gigoter, on est là pour abuser. Si je veux recommencer, on va te le repasser.
Ah non, c'était ridicule, là. C'en était épouvantable. Écoute, je vais vous donner un exemple. Je suis allé dans le sud avec ma blonde. On arrive là-bas et c'est un peu mélangeant. Là, on ne sait pas où aller pour s'enregistrer. Et que ma blonde a dit, demande par où il faut passer. Alors, il parle juste anglais. Elle a dit, tu vas te débrouiller. Oui. Sorry, sir. Does we need to go per an event? Par en avant? Par un even? Non? Ah non, moi je parle pas anglais, écoute, ça en est ridicule. Et là, il y a un soir, comme ben des couples dans le sud, on l'échappe, OK? On l'échappe. Ça finit tard. Et là, le lendemain matin, écoute, j'ai une barre qui me traverse la tête de même. Et là, j'arrive au déjeuner. Et là, je suis moins anglais ce matin-là, un peu, hein? Et là, la fille, la serveuse vient me voir, puis elle me dit, « Hello? » Je fais, « Hello? » Elle dit, « Oh, do you want breakfast? » Déjeuner, breakfast. Et je dis, « Oh, not too much on morning. I'm making it. Oh, I'm very making it. Oh, yes. Oh, if you know Guillaume Tell, the archer, là, il a manqué sa flèche. I have a big meditators. Oh, yeah. So, elle me dit, so? Je dis, non, je serais pas malade, là. Pas besoin d'emmener de so, là. And elle dit, so, what do you want for breakfast? Genre, just two toasts with confiture. Elle me dit, what? Two toes. You know, you take the bag of pain. You take a trenches of pain. Put in the toaster. Click the pitoon. Wait few minutes. Look around. Hello, click. Oh, the toast are ready. Away. Go. Take the toast from the toaster, you know, and watch out. The hot. And put the toast into the haciendas. Put some burr and comforter. I'm seeing. Là, c'est là qu'elle me dit, monsieur, je parle un peu le français. Je fais, ah,
right, good, darling, good. Mais elle dit, monsieur, confiture, en anglais, c'est jam. Oh, confiture, c'est jam. OK, OK. So I want two toasts with the jam. Elle me dit, yes, yes, sir, bravo. Elle dit, which one? Fraises or framboises. If you don't have a way bleuette, it's okay. Là. So, Quebec City, my name is Pierre Method. Thank you very much. God bless you all.
COVID-19 est-il pandémique ici? Alors, protégeons-nous.
Mamá, pastel, si le chima, pato, sahuatl, le, 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 le
respecte ba non mais j'aime mettre pas ça ni la vie na ni
Citoyennes et citoyens, partout où vous êtes dans le monde, respectez les gestes barrières édictés par l'OMS.